Bonjour tout le monde à nouveau. Deux mots sur l'organisation de la journée. Alors ce matin, la table ronde est plus sur toutes les thématiques du monde rural qu'on trouve dans Revelli. Et cet après-midi, par contre, on va aborder dans l'autre table ronde les problèmes de résistance et de après-guerre en Italie et en France. Et nous essaierons de faire ce qu'on s'était proposé, c'est-à-dire de débattre ces deux thèmes. En soulignant, c'était un des buts de toute cette manifestation qui se déroule depuis le début juin, de débattre, de souligner un peu quelles sont les potentialités des archives Revelli pour des travaux, des recherches futures, et aussi pour voir un peu les mêmes potentialités qu'il peut y avoir dans d'autres archives qui ont été produites en France pendant d'autres recherches, par exemple ce matin sur le monde rural, vu d'une façon différente, mais quand même je pense qu'il y a là du matériel à débattre. L'autre but, c'était un peu la découverte en France de Nuto Revelli, parce que contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ce n'était pas du tout un personnage connu, malgré le fait qu'il ait eu des rapports avec la France. On en découvre de plus en plus, mais pas de rapports avec le monde académique, avec le monde universitaire, ou sinon des rapports particuliers. Quoique son livre « Le monde vaincu » avait été traduit déjà dans les années 70 et maintenant va être réédité parce qu'il est complètement épuisé, avec l'autre livre qui regarde le monde rural, qui est l'Anello Forte, donc l'anneau fort dédié plutôt à la problématique du monde féminin. Bien sûr, le souhait de la Fondation Nuto Revelli, qui est ici représentée par son président Marco Revelli, par sa vice-présidente Antonella Tarpino, c'est de susciter un maximum de travaux de recherche, des groupes d'études. Donc, on espère aussi que si on ne sera pas vraiment trop peu nombreux, il y aura la possibilité dans cette journée d'échanger avec les personnes qui participent aux travaux. Ce programme, vous le savez tous, mais je vais vous le rappeler, a commencé en réalité à la fin de 2018 à être préparé avec Maurice Aymar, et on a tenuto duro, comme on dit en italien, dans le sens qu'on est arrivé quand même à aboutir à une réalisation. Et entre-temps, ça nous a permis un peu aussi de voir ce qu'on était en train de faire. En réalité, nous verrons, il y a dans les universités, mais dans les associations aussi, un intérêt vers Revelli qui est récent. Ça fait quelques années que ces choses commencent un peu à aller dans ce sens. On espère, d'abord, c'est une question que Maurice Aymar a déjà posée hier, et moi j'étais tout à fait d'accord avec lui à la présentation des livres qui ont paru en 2020 et qui vont paraître prochainement. Pourquoi cet intérêt un peu soudain, finalement, vis-à-vis de ce thème, qui sont dans ce personnage, donc l'envie de traduire des livres, l'envie de travailler sur ces livres, l'envie de le découvrir aussi. Et donc, c'est un argument complètement ouvert d'un certain côté, mais de l'autre côté, c'est bien précisé par les intérêts des gens qui ont commencé à y travailler, à voir. Et donc, c'est un peu ce que nous verrons de faire, c'est-à-dire de voir de près un peu ce qui a été fait aussi jusqu'à maintenant. Donc, je vous propose de commencer directement pour parler de tout cela en suivant le programme. Donc, je donne la parole d'abord à Marco Revelli, qui va nous parler, je vous dis le titre exact, Nuto Revelli, l'université et les professionnels de la recherche.
Merci, merci bien. Merci de tout mon cœur pour cette occasion de présenter le travail de mon père dans ce lieu si important pour le savoir, pour le haut savoir. Un merci particulier à Maurice, Aymar et à Lucia Carle qui ont voulu ce moment de réflexion et ce mois d'exposition de la vie de mon père. En réalité, plus que de rapport avec l'université de mon père, je parlerai de la méthode particulier de Nuto Revelli, de la spécificité de sa méthode. Mais avant, permettez-moi de vous dire que je ressens une certaine gêne à intervenir ce matin sur un sujet pour moi ainsi engageant, je devrais dire familial. Je suis convaincu que les fils devraient parler en public le moins possible de leur père et vice-versa. Trop asymétrique et en même temps trop intime la relation pour permettre l'équilibre nécessaire, trop chargée d'émotions pour permettre l'impartialité nécessaire qu'imposerait l'approche scientifique. Je vais essayer de remédier à cette difficulté en faisant une intervention de pur témoignage, c'est-à-dire en essayant de vous communiquer ce que, de l'intérieur des murs du noyau familial, j'ai pu percevoir de l'esprit avec lequel mon père abordait ses recherches, ses motivations intérieures. Peut-être ses obsessions, ses clous fixes, de la méthode de travail qu'il a progressivement construite, les matériaux qu'il a recherchés et comment il les a recherchés, ce qu'il a ramené à la maison, la façon dont il les a triés et retravaillés, la relation avec les sources de sa recherche, les personnes des témoins, celles des médiateurs, celles des informateurs et des grands référents, les invariants dans le comportement et dans l'ordre du discours, les priorités non déclarées mais traduites en petits gestes. Je tiens à préciser d'emblée que mon père n'était pas un chercheur professionnel, un spécialiste des sciences sociales, au sens où on l'entend habituellement avec un positionnement disciplinaire précis. Dans une interview publique, dont les images filmées ont largement circulé, au présentateur qui lui demandait comment il se définissait, un sociologue, un anthropologue, un historien, il répondit à l'amusement de l'auditoire: Je suis géomètre. C'est en fait le diplôme du lycée qu'il avait obtenu avant de s'enrôler dans le corps alpin et de fréquenter l'Académie militaire de Modène, d'où il devait devenir officier au service permanent, la deuxième qualification formelle dans son curriculum. Cela faisait partie des tendances naturelles de la tendance naturelle à l'understatement qui appartenait à son caractère, hein. Mais c'était surtout une façon de marquer la différence entre son travail de recherche et celui du professionnalisme scientifique, de Wissenschaft als Beruf, pour reprendre l'expression weberienne, du travail scientifique comme vocation ou profession. Comme Primo Levi, qui a plusieurs fois exprimé ce concept de manière parfaite, et comme Mario Rigoni Stern, un vieux ami de tous les deux, il appartient à cette génération d'écrivains qui sont venus à la littérature et au travail intellectuel non pas par vocation originelle, als Beruf, mais comment dire, par hasard, attirés par les circonstances de la vie, notamment les plus tragiques, comme les événements marquants qui ont bouleversé le monde et leur vie entre 1940 et 1945, la guerre et l'horreur qu'elle contenait, dessinés, pourrait-on dire, ou peut-être mieux, obligés par l'histoire, témoins d'une horreur presque indicible, d'où le retour répété au thème, porteur d'un devoir de dire auquel il ne pouvait échapper. Primo Levi, en 1987, avait offert à ses amis Nuto et Mario, Rigoni Stern, une pierre prélevée dans le fleuve Po, sur laquelle il avait fait graver un court poème dédié à ces deux-là qui, comme lui, écrivait-il, ont toléré la vue de Méduse qui ne les a pas pétrifiés. Et ajouté, ils ne se sont pas laissés pétrifier par la longue chute de neige des jours. Ici, l'écriture comme preuve pour soi-même de la non-pétrification et comme antidote contre la pétrification des autres, des contemporaines et surtout de la postérité. Le premier livre de mon père, Maïtardi, publié dès 1946 par un éditeur local, appartenait au genre littéraire le moins formalisé de tous, le journal intime, écrit dans le déroulement des événements, la guerre d'agression fasciste en Russie et la retraite de janvier 1943, pour les arrêter dans la mémoire. Est rendu public pour rendre justice aux camarades tombés dans cette tragédie, afin que ses vies et ses morts ne disparaissent pas sans laisser des traces. De même, le second, La guerre dei poveri, la guerre des pauvres, avec l'ajout du journal du période partisan, les 20 mois entre septembre 1943 et avril 1945, imprimé en 1961, cette fois par Einaudi, sont arrivés dans la grande maison d'édition nationale. Il s'agit encore, dans les deux cas, d'un récit individuel, confié à des documents papier, le journal dans lequel il avait noté la campagne de Russie au jour le jour, les centaines de feuillets et de tracts qui constituaient ses archives partisanes. Tandis que son œuvre suivante, La strada del Davai, de 1966, marquera le passage à un récit collectif, c'est-à-dire l'histoire des autres, sa propre plume et sa propre langue prêtées au sans-voix, au protagoniste réel et muet de cette guerre encore une fois revisitée, les soldats de la retraite, surtout ceux de la captivité russe. Et immédiatement après, en 71, l'ultimo fronte, le dernier front. La parole rendue à ceux qui n'étaient pas revenus à travers la publication des dernières lettres des soldats morts dans ces guerres misérables imposées par le fascisme à une population paysanne réfractaire par tradition. C'est ensuite, au début des années 70, qu'il passe à ce que l'on pourrait définir comme l'autre versant de sa recherche, le versant ethno-anthropologique, la grande recherche chorale sur la campagne e le montagne de Cuneo pour il mondo dei vinti e ensuite l'anello forte, qui nous intéresse le plus ici, et qui est généralement considéré comme un second genre dans la bibliographie de mon père, un autre registre dans l'écriture et les questions abordées. Ce qui est vrai à bien des égards, mais seulement partiellement, car en réalité, il est, je peux le dire avec raison, ayant saisi les affres de sa genèse en tant que témoin oculaire, dans un rapport de continuité intrinsèque avec les textes précédents. Il révèle en filigrane le même fil conducteur, la même obsession souterraine de la guerre, le même besoin d'élargir et d'approfondir son exploration et son expiation qui avait inspiré les œuvres précédentes. Je pourrais le dire ainsi. La porte d'entrée de mon père dans le monde paysan, dans tous les sens du terme, de celui de la motivation existentielle de la recherche à celui de la structure de la communication, a été une fois de plus la guerre. Ce sont après tout les paysans soldats qu'il a rencontrés en tant que premier lieutenant du bataillon à Borgo San Dalmazzo, puis vu tomber en Russie, qui ont préparé la collecte de témoignages de paysans soldats dans les cabanes semi-abandonnées des montagnes pauvres dépeuplées par l'industrialisation sauvage des années 60. Il déclare lui-même ce fil de continuité en ouvrant l'introduction de l'anello forte par cette déclaration délibérément explicite, et je le cite. J'ai poursuivi le thème de la guerre pendant plus de 20 ans. Je l'avais dans la tête, je ne pouvais pas l'oublier. Rien n'était suffisant pour que mon ver de terre commence à se creuser. Un morceau de pain jeté me rappelait la vieille fin, la fin des pommes de terre surgelées. Même la neige qui devient grise lorsque le ciel est plombé m'a rappelé les longues marches, les nuits dans le froid, l'atmosphère lunaire de la retraite russe. Dans l'introduction quelque peu parallèle du monde vaincu, en revanche, il avait écrit, et je cite, « Dans toutes les maisons paysannes, on trouve au moins un signe de vie militaire, de guerre ancienne ou récente. Dans de nombreuses maisons paysannes, le signe est la photographie d'un déchu. On ne peut pas parler du monde paysan en ignorant les guerres. Les guerres étaient la malédiction perpétuelle, les guerres étaient pires que la tempête. C'est en effet autour de ce noyau de partage d'une expérience vécue commune entre ces sujets, lui qui demandait les témoins qui répondaient, par ailleurs si différents par leur position sociale, leur éducation, leur origine, que s'articule la relation cognitive confiée à la collecte de témoignages, qui, il faut le dire, a comme motivation principale de la recherche un élément à bien des égards extra-scientifiques ou pré-scientifiques, que je résumerai dans le concept de dette. Le besoin éthique, existentiel, génériquement humain, pour dédommager ce monde d'en bas, composé d'une infinité de petites histoires qui ne sont généralement pas reconnues comme faisant partie de l'histoire, pour le sacrifice silencieux subi. Je voudrais insister sur l'importance, voire la centralité, que la catégorie de la dette contractée envers les protagonistes collectifs de ce monde des vaincus occupe dans la recherche de notre réveil. Une dette contractée dès le départ, au moment où tout a commencé, après de ces soldats alpins de la caserne de Borgo San Dalmazzo, déjà fatigués par la guerre et auxquels il avait été assigné comme supérieur, en tant que sous-lieutenant de prima nomina, on disait, fier de son propre désir de guerre. Et dont il parle dans les toutes premières pages de l'introduction du Monde des vaincus, où il décrit le début de son dialogue avec les paysans. Citation. Mon dialogue avec les paysans a commencé en printemps 1941, dans la caserne Cesare Battista du 2e régiment alpin, il écrit. Le bataillon venait de rentrer d'Albanie. Je sortais de l'Académie de Modène. Fatigué, désenchanté, mes soldats subissaient la vie militaire comme une maladie. Ils ne rêvaient que de congés agricoles. Moi, par contre, j'étais fier de mon uniforme. J'avais hâte de me battre, de gagner. Cette dette s'est ensuite consolidée dans la retraite, dans les moments de folie, dans la plaine de Nikolaïevka, quand il a vu ses soldats alpins mourir au bord de la pente, dans la neige, sans pouvoir rien faire pour les sauver, gelés, abandonnés, trahis, quand il s'est rendu compte du crime commis par le fascisme, par les Savoie, par ce qu'il croyait être la patrie contre ce peuple. Citation, souviens-toi, je me suis dit, souviens-toi de tout, de cet immense massacre de paysans. Tu ne dois pas oublier, note toujours dans le monde del Vinti. Et quand il s'est rendu compte qu'il devait sa survie au savoir de ces montagnards, considérés comme ignorants par les classes supérieures. À un moment donné, il a dit qu'il avait appris là-bas, au cœur de cette tragédie, que la culture, c'est savoir faire marcher une mule à 40 degrés au-dessus de zéro. Et c'était une considération très importante pour un jeune homme appartenant à la classe moyenne provinciale qui avait découvert un autre monde. Il s'est enterré à nouveau cette dette dans les montagnes en tant que partisan, dans une guerre un peu plus juste. Je ne veux pas dire juste tout court, car je ne crois pas que les guerres justes existent. En tant que partisan, alors qu'il, lui et les autres du groupe italien Italia Libera, n'auraient pas pu survivre, ne serait-ce qu'une semaine, sans avoir autour d'eux, au moins, sinon le soutien enthousiaste, la tolérance de cette population. Et enfin, dans les années qui ont suivi, quand ce monde s'est écroulé sans un cri, dans le silence public, dans le silence de la politique, dans le silence de la culture, dans le silence des médias de masse, lorsque les hautes vallées de la région de Cuneo se sont transformées en hôpitaux chroniques, alors que tout le monde applaudissait les autoroutes, la circulation rapide, la motorisation totale. Voici, je crois que la spécificité de sa méthode, que je définirais au sens positif du terme, comme la méthode d'un autodidacte, est né ici, de cet entrelacement de subjectivité et d'histoire vécue et partagée. C'est-à-dire une méthode qui n'est pas formalisée en amont de la recherche, mais qui est née au sein de la recherche même, dans son déroulement, au point d'intersection entre le sujet enquêteur et l'objet enquêté. Ou plutôt dans la rencontre entre deux subjectivités sur la base d'une empathie partagée, sans laquelle les portes de ces maisons, barrées par une défiance paysanne atavique, ne se seraient pas ouvertes. Et il en serait probablement résulté au mieux un récit stéréotypé, certainement réticent, résultat d'une distance entre des mondes si différents, l'urbain au centre et le rural à la périphérie, qu'ils n'ont même pas pu trouver la médiation nécessaire du langage. Pour ouvrir ces portes, pour dissoudre ce mur, il fallait des ressources que seul un personnage comme lui possédait, à bien des égards. Pas seulement la maîtrise du dialecte, des nombreux dialectes qui coexistent dans le multilinguisme des montagnes piémontaises, à quelques kilomètres à vol d'oiseau. Pas seulement le recours à des médiateurs locaux qui ont la confiance des témoins, pas seulement la connaissance des problèmes d'un monde séparé, mais aussi d'avoir partagé une expérience fondatrice telle que cette guerre sans merci, d'avoir été comme eux ou leur frère, mari, fils, un alpino, d'avoir subi les mêmes blessures du corps et de l'âme, d'avoir connu la même douleur, d'avoir ressenti le même sentiment d'injustice et d'avoir su le partager avec eux. En outre, une capacité, une volonté d'écoute peu commune, sans superposer sa propre présence interrogative au récit du témoin. Le schéma préétabli d'un ensemble de questions formalisées, savoir rester quelque peu distant, mais en même temps investir sa propre identité non neutre ou anonyme dans la relation. C'est pourquoi le palinceste des témoignages reproduit une sorte de régularité et en même temps de flexibilité. Il suit toujours le fil chronologique de la biographie individuelle et familiale, en partant de la famille d'origine et en remontant les étapes fondamentales de la vie, avec quelques questions récurrentes, mais ouvertes aux variations, à la permanence de l'attention sur les moments topiques, généralement la guerre pour les hommes, l'accouchement pour les femmes. Parfois avec des monographies approfondies, le thème des masques, les sorcières, de la superstition et de la religiosité paysanne, le rôle du clergé, l'expérience de l'émigration, le dépeuplement produit par l'industrialisation, captant, lorsque le cas s'est présenté, les voix collatérales d'autres personnages présents à la réunion, membres de la famille, voisins, etc. Bien sûr, les critiques d'une telle approche n'ont pas manqué, comme celle de Roger Absalom, professeur de littérature et d'histoire italienne à Cambridge, qui en 1984, sur les pages de la revue Passato e Presente, dans un long essai intitulé « Un mondo che scompare, i contadini di Nuto Revelli », remettait précisément en question l'excès d'empathie et de coparticipation, considéré comme difficilement compatible avec l'objectivité nécessaire de la méthode scientifique conçue de manière positiviste. Je le cite, « Les historiens et autres spécialistes des sciences sociales, écrivait Absalom, sont obligés de dépasser la pitié et l'indignation, bien qu'ils doivent eux aussi en ressentir avant d'entreprendre leur travail, et d'essayer d'atteindre un certain niveau d'explication. Révéler que les paysans ont été l'objet d'une exploitation et d'une humiliation venue d'en haut pendant des millénaires est nécessaire sur le plan éducatif, mais insuffisant sur le plan scientifique. De l'autre côté, il y avait d'autres protagonistes du débat, surtout en Italie, où depuis la moitié des années 70, il y avait un fort intérêt pour l'oral history, pour l'histoire orale, souvent avec une touche militante. Protagonisti come Anna Bravo, Luisa Passerini, Sandro Portelli, che valorizzavano dans la recherche du monde des vaincus et de l'anello forte exactement les éléments qu'Absalon avait mis en accusation, c'est-à-dire la révélation du patrimoine de la subjectivité submergée, de la culture informelle des classes sociales exclues, du circuit de la haute communication. Mais non moins significative pour cela. Et je cite, parce que dans ces pages, a écrit Alessandro Casellato à ce sujet, ce qui était jusque-là étouffer ou chuchoter est dit en public, est publié, parce que le langage est brutal et que les mots semblent être en contact direct avec les choses. Et puis parce que le corps entre en chaîne, un corps souffrant, torturé, dans des poses très peu héroïques. Et enfin, parce que qu'il s'agissait d'effectuer sur la pression d'un processus de dissolution catastrophique la collecte et le sauvetage des traces d'une mémoire sociale et d'une civilisation en voie d'extinction, des sources précieuses, sources vivantes, destinées à disparaître en quelques années, si elles n'étaient pas sécurisées par des techniques d'état d'urgence, comme lorsqu'il s'agit de ramener à la côte les victimes d'un naufrage. Et en effet, qu'il s'agissait d'une urgence dans ce passage accéléré de la modernisation qui a liquidé à coups de bélier les vestiges d'une fragile prémodernité, cela n'est fait guère de doute. De cette période, je dois dire que je me souviens particulièrement de l'anxiété. Je me souviens de l'angoisse qui s'emparait de mon père. Dès qu'il le pouvait, il s'enfuyait de la maison. Il travaillait jusqu'au vendredi soir, mais le samedi et la dimanche, il prenait le magnétophone, un vieux Grundig de la première génération, c'est très lourd, et battait les vallées de montagne, les collines de la Langa et du Roero, le Montferrato. Je ne comprenais pas toute cette hâte. Pourquoi cette obsession de collecter et ramener ces témoignages en piémontais, en patois, en occitan? Je ne comprenais même pas l'importance de cette matière. Nous, jeunes du 68, regardions ailleurs de notre impatience générationnelle. Nous regardions aux portes des usines, de Michelin, de Fiat. Nous regardions le monde des conflits industriels en pensant que la nouvelle histoire se ferait là. Et au lieu de cela, il semblait faire marche arrière. Cette hâte était plus que justifiée, je ne peux dire aujourd'hui. Il avait parfaitement compris que la tâche qui lui incombait était de saisir la dernière, voire l'extrême, description d'une civilisation en train de sombrer. C'est ainsi qu'ont été rassemblées les quelques 1500 heures d'enregistrement aujourd'hui conservées dans les archives de la Fondation Nuto Revelli a Cuneo. Parmi ceux, environ la moitié concerne les 200 témoignages qui constituent le matériel préparatoire du Mondo dei Vinti. Environ 500 heures supplémentaires sont la documentation des 237 interviews de l'Anello Forte, auxquelles s'ajoutent 84 témoignages sur le thème monographique de l'émigration, tout recueilli entre 1970 et 1971, pour une centaine d'heures particulièrement intéressantes en raison des étroites relations transfrontalières avec la France voisine. Le matériel audio est ensuite complété par 39 grandes ou très grandes bobines dont les contenus sont classés dans la catégorie « sujets divers » et concerne des enregistrements d'émissions de radio, de débats ou d'événements publics ou d'interviews d'experts et de consultants. Une section spéciale est réservée aux enregistrements des nombreuses présentations des deux livres dans les municipalités même où les témoignages ont été recueillis, offrant un échantillon extrêmement intéressant de l'accueil que cette mémoire a reçu dans la région, ainsi que des fréquentes rencontres avec les écoliers de la province de tout niveau. Tous les témoignages du Mondo dei Vinti et de l'Anello Forte ont été numérisés et pourront d'ici peu également être écoutés en ligne. elles sont divisées par les macro-zones dans lesquelles l'auteur les avait classées. Montagnes, collines et plaines de la province de Cuneo. Chacun peut être écouté comme un récit biographique à part entière. Il est classé avec le nom et le prénom du témoin, son âge, son lieu de naissance et le lieu où l'enregistrement a été réalisé. Mais en même temps, l'ensemble du matériel audio, des archives, peut être navigué transversalement par thème grâce à une indexation méticuleuse du matériel par thème et sous-thème, selon une grille qui retrace généralement la structure thématique qu'Antonella Tarpino a conçue pour l'édition du volume Il popolo che manca, Le peuple disparu, dans lequel précisément l'ensemble du matériel des témoignages a été désassemblé et réassemblé par grands thèmes. Naissance, travail, mariage, guerre, alimentation, médecine populaire, vêtements, religiosité, croyance, mort. Aujourd'hui, grâce aussi au précieux conseil ethno-anthropologique de Lucia Carle, ces macro-thèmes ont été articulés avec des sous-thèmes plus spécifiques et les chercheurs pourront utiliser une grande base de données représentative de ce monde paysan qui, à travers les voix de ces témoins, pourra nous parler à nouveau. Merci.
Je crois que cette présentation de Marco Revelli nous a bien mis dans l'ambiance, en soulevant déjà, plus ou moins, toute une série de problématiques que nous allons voir par la suite. Et je prendrai... il ne nous a pas rendu la vie facile, hein, Marco, en mettant bien tous ces points, mais on va quand même essayer de arriver à faire des comparaisons avec d'autres recherches qui ont été faites dans le même but, mais avec des attitudes et des méthodes assez différentes, et de pouvoir aussi analyser un peu la méthode de Revelli de ce point de vue. Donc c'est ça la chose un peu difficile qu'on va essayer de faire. Mais je pense que la question de fond, c'est justement celle qu'il vient de poser, c'est-à-dire d'un côté critiquer le travail de Revelli en disant il y a trop d'empathie, les chercheurs, les scientifiques n'ont pas droit, ne doivent pas avoir de l'empathie parce que ça fausse les résultats. Et de l'autre côté, toute une problématique qui regarde les comportements que les anthropologues, les ethnologues, les gens qui font du terrain, hein, pour entendre, doivent avoir avec les gens sur lesquels ils travaillent et avec lesquels ils travaillent. Et je pense que c'est un peu ça le fil conducteur de la journée. Pour ça, on rentre tout de suite dans le... disons, dans le fond du problème. Un des aspects très importants qui lie toute recherche touchant le monde rural est la famille, les systèmes de famille, la famille par rapport aux modèles sociaux qui sont le spécifique de chaque réalité culturelle. Donc, on commence pour voir quel a été le parcours en France, spécifiquement, parce que c'est un pays où on a beaucoup travaillé sur ça, sur l'histoire de la famille. L'histoire de la famille. Et donc, après, on pourra en juger jusqu'à quel point ces études et ces réflexions sont rentrées dans le travail qu'on a fait sur les différents terrains.